je fis ainsi connaissance avec Vénantius de Salvemec, traducteur du grec et de l'arabe, fervent de cet Aristote qui certainement fut le plus sage des hommes. Bense d'Uppsala, un jeune moine scandinave qui s'occupait de rhétorique. Béranger d'Arundel, l'aide du bibliothécaire. Émaro d'Alexandrie, recopiant des ouvrages qui ne seraient prêtés que pour quelques mois à la bibliothèque. Et puis un groupe d'enlumineurs de différents pays. Patrick de Clonmacnoir, Raban de Tolède, Magnus de Iona, Vald de Hereford. L'énumération pourrait continuer, et il n'est rien de plus merveilleux que l'énumération, instrument d'admirable hypotypose. Mais je dois en venir au sujet de nos discussions, d'où surgirent maintes indications utiles pour comprendre la subtile inquiétude qui flottait parmi les moines et un je ne sais quoi d'inexprimé qui pesait sur tous leurs propos. Mon maître entreprit mal acquis, en commençant par louer la beauté et l'activité du scriptorium, et par s'enquérir de la marche du travail qui s'accomplissait en ce lieu, car, dit-il avec une grande habileté, il avait partout entendu parler de cette bibliothèque, et il aurait voulu en examiner de nombreux livres. Malachi lui expliqua ce que l'abbé lui avait déjà dit, que le moine demandait au bibliothécaire l'ouvrage à consulter, et celui-ci irait le chercher dans la bibliothèque supérieure, si la demande avait été juste et pieuse. Guillaume demanda comment il pouvait connaître le nom des livres abrités dans les armarias du haut, et Malachi lui indiqua, fixé par une chaîne d'or à sa table, un volumineux codex intégralement couvert de listes. Guillaume enfila les mains dans sa coule, qui s'ouvrait sur sa poitrine pour former une poche, et en retira un objet que je lui avais déjà vu dans les mains et sur son visage au cours du voyage. C'était une fourche construite de manière à pouvoir tenir sur le nez d'un homme, et mieux encore sur le sien si proéminent et aquilin, comme un cavalier se tient sur la croupe de son cheval, ou comme un oiseau sur un juchoir. Et de chaque côté de la fourche, de façon à correspondre aux yeux, s'arrondissaient deux cercles ovales de métal, qui enserraient deux amandes de verre épaisse, comme des fonds de chope. Guillaume lisait de préférence avec cela sur les yeux, et disait y voir mieux que nature ne l'avait doué, ou que son âge avancé, surtout au déclin du jour, ne le lui permettait. Ses verres ne lui servaient pas à voir de loin, car son regard était des plus aigus, mais à voir de près. Grâce à eux, il pouvait lire des manuscrits aux lettres minuscules que je peinais presque à déchiffrer moi-même. Il m'avait expliqué que lorsque l'homme était arrivé au-delà de la moitié de sa vie, même si sa vue avait toujours été excellente, son œil durcissait et renâclait à adapter la pupille, à telle enseigne que de nombreux savants étaient comme morts à la lecture et à l'écriture après leur 50e printemps. Grave malheur pour des hommes qui auraient pu donner le meilleur de leur intelligence pendant nombre d'années encore. Raison pourquoi il fallait louer le Seigneur que quelqu'un eût découvert et fabriqué cet instrument. Et il me disait cela pour soutenir les idées de son Roger Bacon, affirmant que le but du savoir était aussi de prolonger la vie humaine. Les autres moines regardèrent Guillaume avec beaucoup de curiosité, mais ne risquèrent aucune question. Et de mon côté, je m'aperçus que, fût-ce dans un lieu aussi jalousement et orgueilleusement consacré à la lecture et l'écriture, cet admirable instrument n'avait pas encore pénétré. Et je me sentis fier d'accompagner un homme qui avait en sa possession quelque chose digne d'étonner d'autres hommes fameux dans le monde pour leur sagesse. Avec ces objets aux yeux, Guillaume se pencha sur les listes dressées dans le codex. Je regardai moi aussi, et nous découvrîmes des titres de livres dont nous n'avions jamais entendu parler, et d'autres très célèbres que la bibliothèque possédait. De Pantagonos Salomonis, Ars loquendi et intelligendi in lingua hebraica. De Rebus Metallicis, de Roger de Hereford. Algebra, de Al-Khawarizmi, version latine de Robert Anglico. Les Puniques, de Silius Italicus. Les Gesta Francorum, de Laudibus Sanctae Crucis, de Raban Mort. Et Flavi Claudi Jordani, de Atate Mundi, et hominis reservati singulis literis per singulos libros ab A usc ad Z, lut mon maître. Ouvrage splendide. Mais selon quel ordre sont-ils enregistrés? Il cita un texte que je ne connaissais pas, mais qui était sûrement familier à Malachi. Habeat librarius et registrum omnium librum ordinatum secundum facultates et auctores repone atque eo separatim et ordinate cum signaturis per scripturam applicatis. Comment faites-vous pour connaître la place de chaque livre ? Malachi lui montra des annotations qui accompagnaient chaque titre. Je lus. III, 4, gradus. 5, in prima grecorum. II, 5, gradus. 7, in tertia anglorum. Et ainsi de suite. Je compris que le premier chiffre indiquait la position du livre sur l'étagère ou gradus, signalé par le second chiffre. L'armoire étant signalée par le troisième chiffre, et je compris aussi que les autres expressions désignaient une salle ou un couloir de la bibliothèque, et j'osais demander de plus amples renseignements sur ces dernières distinctions. Malachi me regarda avec sévérité. « Vous ne savez sans doute pas, ou vous avez oublié, que l'accès à la bibliothèque n'est consenti qu'au seul bibliothécaire. Et donc, il est juste et suffisant que seul le bibliothécaire sache déchiffrer ces choses-là. Mais dans quel ordre sont reportés les livres dans cette liste ? Demanda Guillaume. Pas par sujet, me semble-t-il. Il ne fit pas allusion à une classification par auteur, qui suivit l'ordre même des lettres de l'alphabet, car c'est un procédé astucieux que j'ai vu mis en œuvre ces dernières années seulement et qu'on n'utilisait guère autrefois. La bibliothèque plonge ses racines dans la profondeur des temps, dit Malachi. Et les livres sont enregistrés selon l'ordre des acquisitions, des donations, de leur entrée dans nos murs. Malaisé à trouver, observa Guillaume. Il suffit que le bibliothécaire les ait tous présents en sa mémoire et sache pour chaque livre l'époque où il arriva. Quant aux autres moines, ils peuvent se fier à sa mémoire. On eût dit qu'il parlait d'un autre, qu'il ne s'agissait pas de lui-même, et je compris qu'il parlait de la fonction qu'en ce moment il remplissait indignement, mais qui avait été remplie par 100 autres, désormais disparus, lesquels s'étaient transmis de l'un à l'autre leur savoir. « J'ai compris, dit Guillaume. Si donc je cherchais quelque chose, sans savoir quoi précisément, sur le Pentagone de Salomon, vous sauriez m'indiquer qu'existe le livre dont je viens tout juste de lire le titre et vous pourriez en déterminer la position à l'étage supérieur.
Si vous deviez vraiment apprendre quelque chose sur le Pentagone de Salomon, dit Malachi. Mais un tel livre, si j'avais à vous le donner, je préférerais d'abord demander conseil à l'abbé.
J'ai su qu'un de vos plus habiles enlumineurs, dit alors Guillaume, a disparu tout récemment. L'abbé m'a beaucoup parlé de son art. Pourrais-je voir les manuscrits qui l'enluminaient ?
Adelme de Trente, dit Malachi en regardant Guillaume avec méfiance, ne travaillait à cause de son jeune âge que sur les marginalia. Il avait une imagination fort vive, et à partir de choses connues, il savait composer des choses inconnues et surprenantes, comme qui unirait un corps humain à une encolure de cheval. Mais voilà ses livres là-bas, personne n'a encore touché à sa table.
Nous nous approchâmes de ce qui avait été la place de travail d'Adelme, où se trouvaient encore les feuillets d'un psautier richement enluminé. C'étaient des folias de vellum très fin, roide d'entre les parchemins, et le dernier était encore fixé à la table. À peine frotté avec de la pierre ponce et adouci à la craie, il avait été lissé avec la plana et, à partir des trous minuscules produits sur les côtés à l'aide d'un stylet très mince, avaient été tracées toutes les lignes qui devaient guider la main de l'artiste. La première moitié avait été déjà recouverte d'écriture et le moine avait commencé d'y esquisser les figures sur les marges. Par contre, les autres feuillets étaient déjà terminés. Et en les regardant, ni Guillaume ni moi ne parvînmes à retenir un cri d'admiration.